Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 22 février 1989.
Il a une grosse question posée. Que veut dire le Christ crucifié et notre sagesse ? En quoi cette sagesse divine assume-t-elle une véritable sagesse humaine? C'était là-dessus que je voulais faire ma thèse de théologie au Solchoir avec le père Eris. Le père Eris m'a dit: oh, tel professeur ne comprendra rien, ne faites pas ça, il vous mettra des bâtons dans les roues. Alors, c'est resté dans le cœur. Je crois qu'en effet, c'est très important, cette affirmation de saint Paul, qui rejoint ce qu'il y a de plus secret dans l'évangile de saint Jean. Le Christ crucifié, notre sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de la croix? Et c'est, je crois, ce qui doit être le plus profond dans toute notre recherche pendant le temps du carême. Vivre le plus pleinement possible de ce mystère de la croix. Alors essayons de comprendre. Saint Paul emploie le mot Sophia. Et saint Paul a une connaissance de la philosophie grecque suffisante pour que lorsqu'il emploie sagesse, c'est quelque chose d'extrêmement précis, tout en étant quelque chose aussi de très souple. Il emploie le mot philosophie, qui n'est pas la même chose que sagesse. La sagesse demande d'être une sagesse de vie. Je crois que toujours, le mot Sophia a toujours été une sagesse de vie. Le mot philosophie exprime plus une recherche. Une recherche sur l'homme, sur les relations de l'homme avec le monde, avec les autres hommes, et avec aussi le Dieu créateur. Alors, sagesse de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement quelque chose d'ultime. La sagesse exprime toujours quelque chose d'ultime. Toujours une connaissance dernière en laquelle on peut se reposer. À la différence d'une recherche philosophique, on ne se repose pas beaucoup en philosophie. On doit toujours aller plus loin, toujours aller plus loin. Et que la sagesse implique la contemplation. Cette affirmation de saint Thomas qui est très forte et que je crois que saint Paul aurait tout à fait accepté. La sagesse habitus contemplativus. Il dit ça qu'une fois, je crois, dans ses œuvres. Il le dit quand même une fois. Dans son commentaire des noms divins. La sagesse est un habitus contemplatif. La sagesse est ce qui met en nous une soif de contemplation. Et la sagesse, c'est ce qui met en nous une possibilité, une capacité de contempler et de nous reposer dans la contemplation. La contemplation est un repos, ce n'est pas une recherche, on a trouvé. On a trouvé celui qui est la source de tout être, de tout amour, de toute lumière. Et on se repose dans cette lumière, dans cet amour, puisque c'est justement caractérise le propre de la sagesse, marqué. Son repos auprès de celui qu'on considère comme étant notre seul bien. Donc c'est quelque chose d'ultime au point de vue de la connaissance et au point de vue de l'amour. La sagesse unit les deux. Vous voyez la différence d'une connaissance scientifique qui est premièrement intellectuelle, qui est une connaissance intellectuelle parfaite, c'est ça la science. La sagesse est plus, elle satisfait l'intelligence et le cœur. C'est le propre de la sagesse, satisfaire. Et ça, là, on retrouve saint Augustin. Saint Augustin, lui, le dit alors avec beaucoup de force. C'est une connaissance sapientiale, c'est-à-dire amoureuse, aimante, qui satisfait notre cœur, qui satisfait notre intelligence. De ce point de vue-là, vous voyez, ça doit être très caractéristique pour nous. Parce que c'est très joannique. Saint Jean satisfait notre cœur et satisfait notre intelligence. Je crois que c'est le propre de Saint Jean, beaucoup plus que Saint Paul. Saint Paul satisfait énormément notre intelligence. Mais Saint Jean satisfait notre intelligence et notre cœur. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose qui implique un aspect de sagesse. Donc, la sagesse pour un grec, et saint Paul unit la culture grecque et la culture sémite. Il est pharisien, donc il sait ce que c'est que quelqu'un qui aime la loi et qui essaie de la vivre. Il est pharisien et il est celui qui a toute la culture grecque. Il est citoyen romain. Il y a pas mal de choses dans son cœur. Hein. Citoyen romain. Aujourd'hui, il serait citoyen américain. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Ça me permet de passer à travers tous ces citoyens. Le dollar représente quelque chose qui nous permet de passer à travers tout. Le citoyen romain, c'était ça. Du temps de Saint-Paul. Si vous êtes citoyen romain, vous êtes à l'abri. Du reste, il n'hésite pas de le dire. Je veux aller au tribunal de Rome. Et on est obligé d'obéir. Ça, au point de vue politique. Au point de vue culture, la Grèce. Et au point de vue de la foi, c'est mythe. Et converti au Christ. Donc il a tout. C'est un grand personnage. Saul de Tarse. Très grand personnage. Nous sommes plus liés à Saint Jean parce que c'est plus intime. Saint Jean, c'est l'intimité du cœur de Jésus. Mais Saint Paul, c'est le très grand personnage. Pierre, c'est l'autorité. Jamais oublié. Jean, Paul, successeur de Pierre. Le pape actuel. Il a aussi ces trois aspects qui sont très étonnants. De sorte que quand saint Paul dit « sagesse de la croix », vous voyez, il met ça en parallèle avec toutes les recherches de sagesse de la Grèce. Il met ça en parallèle avec la sagesse stoïcienne, qui était la sagesse de la Grèce à ce moment-là. Vas-y, à nouveau. Un peu de temps de travail, faites le parallélisme entre Épictète, sa pensée, et ce que saint Paul peut dire. C'est là où le parallélisme est le plus proche. Les entretiens d'Épictète sont très spirituels. C'est une spiritualité très grande, stoïcienne, très grande. Épictète, l'esclave devenu philosophe. Saint Paul, c'est pas l'esclave devenu philosophe. Hein. Saint Paul, c'est celui sémite, pharisien, docteur en Israël. Il n'est pas, mais il est digne de l'être. Docteur en Israël. Il a assumé toute la sagesse grecque. Étant suffisamment un personnage important pour les citoyens romains.
Il nous dit ça, sagesse de la croix. Le Christ crucifié est notre sagesse.
Donc, je crois qu'on peut dire que la sagesse, c'est vraiment cette connaissance ultime. Mais une connaissance de vie, c'est-à-dire à la fois une contemplation et ce qui nous oriente dans notre vie, ce qui dirige notre vie. Vous voyez, chez les Grecs, il y a toujours un tout petit peu le parallélisme entre sagesse et prudence. Mais la vraie sagesse assume la prudence. Et la prudence, c'est la sagesse de vie. Très grand, la prudence. C'est pas une petite vertu. C'est une vertu intellectuelle, de l'intellect pratique. Tandis que la sagesse, c'est au-delà de la distinction spéculative et pratique, par le point de vue de l'amour, c'est au-delà de cette distinction pour nous donner cette capacité de contempler. Et donc cette capacité de nous donner le bonheur. La sagesse nous donne le bonheur. Un bonheur à la fois dans l'ordre de la vérité et dans l'ordre pratique. Alors, sagesse de la croix, il faut comprendre comment le Christ crucifié, saint Paul nous le dit, au point de vue humain, folie et scandale. Alors, pourquoi folie et scandale? Par rapport à la prudence humaine, et par rapport à la sagesse humaine. Folie et scandale. Scandale, parce que justement, l'innocent crucifié, c'est la pire des injustices. Il n'y a pas eu d'injustice plus grande dans le monde que la crucifixion de Jésus. Ça, pour le dire, nous, en tant que chrétiens. Un philosophe mettrait en parallèle Jésus crucifié et Socrate. Ça s'est fait. Et dans l'Antiquité, la mort de Socrate était considérée comme la pire des injustices. Et une injustice encore plus grande, c'est la mort de Jésus. Cet homme est innocent. Pilate l'a reconnu. Il est innocent. Il le répète 3 fois. Et malgré cela, étant donné la fureur et la jalousie pontificale des grands prêtres, ils sont deux. Quand on fait des mauvais coups, il faut toujours être deux, vous savez. Seul, c'est pas suffisant. Parce qu'on a un remords de conscience à la dernière minute. Tandis que quand on est deux, au moment où l'un a un remords de conscience, l'autre ne l'a pas. Et c'est comme ça que ça aboutit. L'amitié des voleurs, comme dit Aristote. L'amitié de ceux qui commettent un crime. Remarquez que c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours une complicité. Et cette complicité, c'est jalousie pontificale. Jésus ne peut pas passer devant. C'est impossible. Donc il faut le supprimer. Il faut l'arrêter. L'innocent est condamné. Il est condamné à mort. L'autorité se tait. Elle s'en lave les mains, remettant tout à ceux qui n'ont pas d'autorité au plan politique, mais qui sont en colère, en fureur, en état de jalousie. Et la jalousie conduit à l'homicide, au fratricide. Et ça nous est montré dès le début de la Genèse.
il s'est montré comme, vous voyez, le plus grand crime. Le plus grand crime au point de vue humain. Le plus grand crime au point de vue de Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le refus de l'obéissance par orgueil. Et au point de vue humain, tuer son frère au moment où il adore Dieu. Donc au moment où il se désarme, où il est le plus pauvre, où il n'a plus aucune défense, le tuer par jalousie. Et ceci annonce la mort de Jésus. Caïn, le frère aîné. Et les grands prêtres sont les frères aînés de Jésus. Et ils veulent tuer celui qui adore le Père. Celui qui est désarmé. Et qui s'est livré complètement désarmé. Donc, c'est vraiment le scandale le plus grand qui soit à la croix du Christ. Et en même temps, la plus grande folie, point de vue de l'intelligence, point de vue de la sagesse humaine, la plus grande folie.
Les intentions perfides.
Sanhédrin s'était opposé violemment au grand prêtre. Ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Et aussi la complicité, sûrement, d'une quantité de pharisiens et de scribes. Il y a des complicités. Autrement, ça ne serait pas passé comme ça. C'est impossible autrement. Donc, il y a l'aspect, j'allais dire, politique, social, visible, dans cette lutte. J'allais dire l'aspect journalistique, qu'on peut voir, qu'on peut saisir, qu'il faut regarder, qu'il faut saisir. Parce que tout est bien mis en place. Trahison de Judas, trahison d'un ami, trahison d'un disciple. Et ceci pour blesser le cœur de Jésus. Les complicités des grands prêtres, du Sanhédrin et de Judas. Tout ça était nécessaire pour que ça arrive. Ça, c'est le jeu des causes secondes. Et le jeu des causes secondes sous l'influence du démon. C'est évident que le dragon, le serpent antique, et l'adversaire est là. C'est lui qui mène tout cela. Mais il ne peut pas supporter que Dieu se fasse homme. Et qu'il soit le sauveur de l'homme pour réparer ce que lui-même avait réalisé. Il faut quand même comprendre cela. Et c'est ça qui mène au tout. Au point de vue visible, au point de vue, vous voyez, de l'aspect du théâtre humain. Il y a toujours un aspect théâtral au point de vue humain. Là, c'est le point de vue pécamineux. Saint Thomas se pose la question. Qu'est-ce qui a péché le plus? C'est du reste Jésus lui-même qui dit, il y en a un qui a péché plus gravement que toi. Qu'est-ce qui a péché le plus? Les grands prêtres, Judas, le Saint-Étrin, Pilate. Entre tout cela. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a faute. Et à l'intérieur de la faute, vous voyez, une certaine dialectique pour aller jusqu'au bout. Crucifiez-le, crucifiez-le. Il y a le cœur, hein, comme dans les théâtres grecs. Il y a le cœur, le peuple qui crie « Crucifiez-le » sous la mouvance, sous l'action des grands prêtres. Donc ça, c'est l'aspect du triomphe visible du démon. Le démon est persuadé à la croix d'être victorieux. Et il l'est sur le plan visible, sur le plan terrestre, il l'est. Enfin, on est arrivé à ce qu'on voulait, que celui qui transformait les cœurs, qui avait une telle influence, on est arrivé qu'il soit prisonnier, condamné, portant la croix, crucifié et mort. Et jusqu'après la mort, cet aspect de domination sur le cadavre du Christ. Ça aussi, ça fait partie de ce théâtre le plus grand qui a existé sur le monde. C'est le sommet de la lutte. Après la mort, on veut encore garder le cadavre. Il y a une garde pour empêcher les amis de Jésus de venir prendre le corps du Christ et prétendre qu'il soit ressuscité. On a peur de certaines paroles de Jésus. Alors on veut à tout prix que ça ne se réalise pas. Du point de vue du conditionnement humain, ça va jusque-là. Et c'est au moment de la résurrection, donc au moment du grand triomphe et la manifestation de ce triomphe, que les soldats qui sont là sont effrayés et s'en vont. Mais la présence du Christ ressuscité, vous voyez le contraste, hein, il domine Jésus, le corps du Christ cadavérique. Et quand Jésus est ressuscité, à ce moment-là, la panique, la peur de la victoire de l'amour, progressivement la conquête qui se fait, hein. Puisque progressivement on voit le cœur des apôtres, de Marie de Magdala, des apôtres qui se fait par les apparitions. Il y a un contraste étonnant, hein. Un contraste étonnant, un contraste qu'on pourrait du reste augmenter avec l'entrée triomphale à Jérusalem quelques jours avant. C'est tout le mystère de la Semaine Sainte. Et tout le mystère de la Semaine Inter-Sainte, de la Semaine Sainte implique cette lutte qu'on retrouve dans l'Apocalypse par rapport à l'Église. C'est la lutte que Jésus a vécue à la croix, donne le sens de la lutte de l'Église décrite dans l'Apocalypse. Cet aspect visible, c'est l'aspect de la défaite, de la victoire du démon. C'est l'aspect du péché. Le péché de l'homme a été jusque-là, puisqu'il a voulu supprimer, rejeter son Sauveur. L'homme incapable d'accepter son Sauveur. Ça, c'est l'orgueil humain. Il n'accepte que ce qui vient de lui. Il ne va accepter que ce qui vient de lui. Si les hommes à Bethléem n'ont pas fait de place pour l'enfant Jésus et Marie, à la croix, ils ont rejeté en le crucifiant celui qui était le sauveur des hommes. Et il y a cette autre vision tout intérieure. Comment Jésus vit ce drame? Comment Jésus vit cette lutte? Et c'est là où on découvre la sagesse de la croix. C'est la manière dont Jésus a vécu ce grand drame de la croix qui nous permet d'entrer dans la sagesse de la croix. Et ceci, c'est invisible. C'est le croyant seul qui le pénètre. Un autre dira, il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Ce qui était dit dans le prophète Isaïe. Et c'est vrai, extérieurement, Jésus ne s'est pas défendu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il a accepté d'être battu, d'être crucifié, d'être rejeté, d'être considéré comme rien. Pour le croyant, intérieurement, il y a un mystère de sagesse. Nette. C'est pour accomplir la volonté du Père. C'est ça qui commande toute l'intention de Jésus. L'accomplissement de la volonté du Père. C'est dans l'obéissance que Jésus va vers le calvaire. Ceci est affirmé d'une manière très nette dans saint Paul, et c'est affirmé dans l'évangile de Jean. C'est ce mystère d'obéissance qui est sagesse de la croix. Sans l'obéissance, il n'y aurait pas la sagesse de la croix. La sagesse de la croix implique cette obéissance, et elle se réalise dans l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui fait que Jésus peut s'offrir entièrement. C'est une offrande intérieure. Vous voyez, il est violenté par la puissance des hommes. Jésus un corps royal à l'égard de Marie, à l'égard de l'Église et à notre égard. Il ne faut jamais l'oublier. Il est notre roi. Or, être roi, c'est le point de vue de la grandeur d'âme, la magnanimité. C'est pas premièrement la justice, vous voyez. C'est le point de vue de la magnanimité, c'est-à-dire la capacité de pardonner. Vous voyez, les rois qui n'ont plus qu'un pouvoir constitutionnel, eh bien, ils ont encore l'unique privilège qui reste pour le roi, c'est de pouvoir gracier. Quand le père Braun, dominicain, était aumônier de la cour en Belgique, comme je le connaissais bien, on pouvait partager pas mal de choses ensemble. Et il m'a justement fait cette réflexion une fois. Il m'a dit, ce qui est extraordinaire, c'est la seule chose qui reste au roi, c'est de pouvoir gracier. Quelqu'un condamné à mort, on remet la cause entre les mains du roi. Et il dit, le rôle de l'aumônier, c'est d'être médiateur. On n'écrit pas directement au roi, on écrit à l'aumônier. Parce qu'on sait qu'il atteint le roi sous ce point de vue-là. Et donc on est médiateur pour gracier. Ça va très loin, vous voyez. Parce que si vraiment, c'est ce qu'il y a d'ultime et qui maintient un roi, roi. On dirait un point de vue philosophique, vous voyez, la raison spécifique du roi, c'est pas le pouvoir, c'est l'autorité paternelle. Et l'autorité paternelle, dans ce cas-là, l'ultime, c'est de gracier. Un condamné à mort, le gracier. Je crois que c'est important pour comprendre la royauté du cœur de Jésus. Ça, c'est le caractère magnanime. Puisque c'est la miséricorde, gracier. Et donc, c'est le caractère magnanime. C'est pas la justice, vous voyez. Quand un roi a un pouvoir énorme, on voit avant tout la justice. Quand il n'a plus du tout de pouvoir, qu'il n'a plus que l'autorité paternelle, alors c'est le gracier. Jésus exerce l'autorité royale dans la pauvreté, sans aucun pouvoir. C'est très étonnant, ça. Sans aucun pouvoir. Et donc, il exerce une royauté divine, mais humaine aussi. Et je crois que le mystère de l'agonie nous met en présence du cœur royal du Christ par rapport à Marie, par rapport à l'Église, par rapport à chacun d'entre nous. Jésus sait de science infuse. Jésus sait qu'il peut seul satisfaire pleinement à tous les péchés des hommes. Parce qu'il est Dieu. Et donc, que l'offrande de sa vie suffit en surabondance à la satisfaction par rapport à la justice du Père. Et donc, s'il peut seul remporter la victoire au milieu du combat, s'il peut seul vivre ce mystère de la croix, et que l'efficacité de son sacrifice est suffisante pour pardonner tous les fautes de l'humanité, il voudrait être seul à souffrir. Au plus intime de son cœur, je crois que c'est le grand défi. seule à s'ouvrir. Et elle serait une œuvre de rédemption absolue. Alors on comprend cette prière. Écarte ce calice. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus accepte que le bon plaisir du Père, qui à ses yeux est la seule chose qui compte, se réalise. Vous voyez, ça fait partie du mystère de la croix, hein. Ça fait partie de la sagesse de la croix. Ça fait partie du désir le plus profond du cœur de Jésus. Cette acceptation plénière de la volonté du Père, bien que ça puisse se réaliser autrement. C'est d'autant plus difficile. Mais ce qui est le plus difficile à accepter, c'est les souffrances inutiles. Quand on voit qu'on aurait pu éviter ça, cette espèce d'imbécile, tu aurais pu éviter toute cette catastrophe et à toute cette souffrance gratuite, inutile. Apparemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile à porter. Quand vous voyez une raison à la souffrance, vous l'acceptez, vous la portez. Mais quand il n'y a pas de raison à la souffrance, quand c'est purement gratuite, et qu'on sait qu'on aurait pu éviter ça, qu'on aurait pu faire autrement, il y a dans notre intelligence une révolte, voyez, la révolte. Parce qu'on considère que c'est de la folie, c'est de la bêtise. Jésus accepte pleinement dans sa sagesse le Fils bien-aimé du Père, la volonté du Père qui fait que sa croix devient source d'autres croix et que sa croix crucifie Marie. C'est lui qui en est la source directe. Et par Marie, l'Église, et par Marie, chacun d'entre nous. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Mais toutes ces souffrances qu'on voit aujourd'hui, constamment, les souffrances terribles, son enfant qui a 20 ans, 22 ans, et c'est la seule, et qui la perd bêtement dans un accident. Sa fille partait toute joyeuse, elle aimait danser. S'endormir au volant. On l'a retrouvé sur la route. ces morts foudroyantes, ces souffrances foudroyantes. Je comprends que Jésus, qui a vu tout cela dans sa science infuse, il a vu tout ça. Pas une souffrance n'a échappé au Christ en agonie. Que ce calice s'éloigne, celui de Marie, celui de l'Église, celui de chacun d'entre nous. Et en même temps, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus accepte dans l'obéissance. Et l'obéissance pour le Christ est plus rude que pour nous. Elle est plus facile parce qu'il aime plus, mais elle est plus rude aussi, parce qu'il a une connaissance plus exacte. Vous savez bien que l'obéissance est toujours plus rude quand on a développé davantage son intelligence. Le grand moyen pour rendre facile l'obéissance, c'est de vous rendre bébête, désinvisible. Et vous faites des études de philosophie pour que votre obéissance soit plus dure. Et donc plus méritoire. C'est pour ça que vous faites des études philosophiques. Un bon père maître des dominicains tout à fait du début. C'est pas trop d'études, ils n'obéiront plus. Et non, c'est l'inverse. Plus vous êtes lucide, plus votre obéissance sera vraie. Mais rude. C'est très rude. Vous avez un prieur qui est nettement moins intelligent que vous. Pas ici. Hein. Vous avez nettement un prieur, ça peut arriver, ça. On n'aime pas le plus intelligent comme prieur. Un prieur qui est beaucoup moins intelligent que vous. Et vous voyez, vous, les prières vous demandent. Pas commode. Hein. D'accepter de faire taire notre intelligence, notre prudence, notre petite sagesse. Qui risque d'être rivale de la sagesse de la croix. Parce que la sagesse de la croix, elle passe par là. Elle passe par l'autorité, puisqu'il est mort dans l'obéissance. Donc la sagesse de la croix implique l'autorité. Et Jésus a vu tout cela dans l'agonie. Et c'est pour ça que je crois que l'agonie, c'est vraiment Jésus qui accepte cette volonté du Père, que Marie vive le mystère de la compassion, que l'Église vive le mystère de la compassion, que chacun d'entre nous, que tous les chrétiens, que tous les hommes puissent vivre le mystère de la compassion. Et le Père veut cela pour que Marie soit plus unie à Jésus et soit plus aimante. Si, de fait, Marie n'avait pas vécu le mystère de la compassion, si l'Église n'avait pas à vivre le mystère de la compassion, Marie serait simplement la petite enfant bien-aimée. Elle ne serait pas l'épouse du cœur blessé de Jésus. Parce qu'elle ne coopérerait pas. Il faut le voir avec beaucoup de force. Et puis beaucoup de sagesse divine. C'est une exigence d'amour. Comme toujours, l'obéissance. C'est une exigence d'amour pour aller plus loin. C'est pour que Jésus, dans son cœur d'homme, rejoigne le regard du Père. Du Père bien-aimé. Le regard du Père comme Père. Et ce regard du Père comme Père, c'est la sagesse de la croix. Jésus vit dans l'obéissance. Et Jésus vit dans l'obéissance et par la fait la même œuvre que le Père. C'est l'œuvre du Père. La sagesse de la croix, c'est l'œuvre du Père. Et l'œuvre du Père, c'est que son amour puisse aller le plus loin possible dans la communication. C'est que sa lumière puisse aller le plus loin possible dans sa communication, dans le don aux hommes. Et pour cela, ça passe par la croix. C'est cela qu'on doit essayer de regarder avec beaucoup d'attention. D'abord, vous voyez, il y a deux aspects dans cette sagesse de la croix. Le premier aspect, pourquoi le Père veut que le rachat des péchés, que le mystère de la satisfaction passe par la croix, alors qu'il aurait pu faire autrement. Un seul acte d'obéissance du Christ. Un seul acte d'adoration du Christ aurait suffi. Jésus aurait pu nous sauver par son enseignement. Jésus aurait pu nous sauver par sa vie de menuisier auprès de Saint-Joseph, de travailleur. Jésus aurait pu nous sauver par sa miséricorde auprès des malades. Les guérissants. Le Père veut que le mystère de la rédemption passe par la croix. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder pour comprendre un peu cette sagesse de la croix. Et deuxièmement, le Père veut que ce que Jésus a vécu surabonde en Marie et dans l'Église. Oui, cette double surabondance, hein, dans l'ordre. Alors, la première chose qu'il faut regarder, hein, le Père veut que son Fils le glorifie et sauve les hommes par la croix. C'est-à-dire, le Père veut se servir de toutes les conséquences du péché. souffrance. C'est insupportable, la souffrance. C'est sûr, au bout d'un certain temps, on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est insupportable. Il faut que le vase est plein. Puis, à ce moment-là, on risque de le déverser sur la tête du voisin. Parce que, justement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est insupportable. Humainement parlant, la souffrance est insupportable. Divinement, voilà la sagesse divine. La souffrance peut.
Souffrance.